Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers confrères, mes bien chers amis, mes bien chers frères, rendons grâce au bon Dieu et à notre Sainte Vierge Marie d'avoir pu nous réunir aujourd'hui en cette fête de son cœur immaculé pour chanter ses louanges, pour essayer pendant quelques instants, pendant quelques jours, de vivre de notre foi. Car en effet, si la Vierge Marie a voulu venir sur cette terre du Portugal, à Fatima, si elle a voulu apparaître à ses quelques enfants pour leur donner un message pour le monde, c'est bien parce que elle désirait que nos âmes s'élèvent vers le ciel. Et alors essayons, mes bien chers frères, de nous remettre dans cette ambiance, dans laquelle ces petits pâtres et également les personnes qui sont venues les entourer chaque 13 du mois en cette année 1917 jusqu'au mois d'octobre où a eu lieu ce miracle extraordinaire, ici même, car dit-on, ce miracle s'est vu à 40 kilomètres autour de Fatima. Par conséquent, si nous avions été présents ce jour du 13 mai 1917, nous aurions vu ce phénomène extraordinaire du soleil tournoyant, lançant des feux de toutes les couleurs, inondant de ces couleurs magnifiques toute la région. Et cela pendant 3 fois 10 minutes. Et puis enfin le soleil descendant comme du ciel pour se rapprocher des fidèles qui étaient présents, pour manifester la vérité de l'apparition de la très sainte Vierge Marie à ses enfants de Fatima. Encore une fois, pourquoi cette apparition de la très sainte Vierge Marie? C'est pour que nos âmes soient sauvées. C'est pour que nos âmes aillent la rejoindre un jour au ciel. Et en quelques tableaux extraordinaires, elle a manifesté à ses enfants de Fatima toute la réalité de notre foi. Car en effet, les enfants l'ont admiré. Et l'ont admiré de telle sorte qu'ils étaient comme en extase, ravis, enlevés. Ne sachant comment exprimer la beauté de la très sainte Vierge Marie, on avait beau essayer de leur donner des comparaisons, aucune comparaison ne pouvait être donnée devant la beauté de la Vierge Marie qu'ils avaient vue. Et puis ce n'est pas seulement la Vierge Marie qui s'est manifestée. Elle a voulu leur manifester quelque chose du ciel. Saint Joseph, portant notre Seigneur dans ses bras et bénissant le monde. Elle a voulu se présenter aussi sous l'image de Notre-Dame du Mont-Carmel, de Notre-Dame des Douleurs. Et généralement, elle se présentait comme Notre-Dame du Rosaire. C'est parce qu'elle a voulu inculquer aux enfants la nécessité du Rosaire, la nécessité de souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ, Notre-Dame des Douleurs. Ainsi, elle a voulu manifester ses sentiments intérieurs afin de les communiquer à ses enfants et que ses enfants, à leur tour, communiquent ses sentiments à tous ceux qui auront l'occasion d'écouter leur message. Et puis, c'est l'archange Saint-Michel qui s'est présenté à eux. Et Notre-Dame leur a parlé également des âmes du purgatoire, lorsque Lucie l'interrogeait pour demander où est telle âme, où est telle personne qui est morte, est-elle au ciel, est-elle au purgatoire? Elle leur disait quelquefois, non, cette âme n'est pas au ciel encore, elle est au purgatoire. Et elle a voulu aussi leur montrer la réalité de l'enfer. C'est donc ici même, dans ces régions, que la très sainte Vierge a voulu montrer ce qu'était l'enfer à ses enfants horrifiés, afin de les encourager à faire pénitence, afin de les encourager à prier pour sauver les âmes. Manifestant ainsi que le cœur de Marie, le cœur immaculé de Marie, est tout entier tourné vers la gloire de son divin Fils et vers le salut des âmes. Sauver les âmes, sauver les âmes. Les faire aller au ciel. C'est donc tout notre catéchisme, en quelque sorte, que ces enfants ont vu en image, et cela par la grâce de la très sainte Vierge Marie. Alors essayons de nous mettre dans cette ambiance, nous aussi aujourd'hui, car ce qui s'est passé en 1917 est vrai encore aujourd'hui, et peut-être encore plus que de ce temps-là, parce que la situation du monde est encore pire maintenant qu'elle ne l'était en 1917. La foi disparaît, l'athéisme fait des progrès partout, et la très sainte Vierge elle-même l'a annoncé. Car si elle a voulu montrer une vision du ciel, elle a voulu aussi parler de la terre. Et elle a dit à ses enfants, il faut prier, il faut faire pénitence, afin d'arrêter les effets néfastes de cette erreur épouvantable qu'est le communisme, qui dominera le monde si l'on ne fait pas pénitence et si l'on ne prie pas et si l'on ne réalise pas ma volonté. Volonté qui était de diffuser les secrets que la très sainte Vierge Marie a donné à Lucie. Et hélas, nous sommes bien obligés de constater que ces secrets n'ayant pas été accomplis, n'ayant pas été diffusés, eh bien l'erreur du communisme se répand partout. Alors efforçons-nous, mes bien chers frères, de nous mettre dans cette ambiance, dans ces dispositions, pour partager les convictions de ses enfants, pour nous unir au cœur de Marie, pour que notre cœur brûle des désirs qui étaient dans le cœur de la très sainte Vierge Marie, qui y sont encore aujourd'hui. Désirs du règne de son Fils. Que peut-elle vouloir d'autre que de voir régner son divin Fils sur le monde entier, sur les âmes, sur les familles, sur les sociétés? Voilà son désir, comme il règne au ciel. Et c'est pourquoi elle vient sur la terre, pour nous supplier, à nous, chacun d'entre nous, il faut que Jésus règne sur vous. Elle le veut, elle le désire. Et alors elle nous donne les moyens. Le premier moyen, c'est la prière. Il faut prier. Elle ne cessait de répéter cela à Lucie. Car Lucie lui posait la question chaque fois. Madame, lui disait-elle, que voulez-vous de moi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Belle question. Comme Saint Paul sur le chemin de Damas à notre Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Il ne peut pas y avoir de meilleure disposition. Est-ce que ce soit aussi notre disposition? Ô Marie, que voulez-vous que nous fassions? Et alors Marie disait, il faut prier, prenez votre chapelet, récitez tous les jours votre chapelet, pour vous sanctifier et pour sauver les âmes, pour sauver les âmes des pécheurs. Elle a répété ça chaque fois qu'elle est venue. Et puis, elle les a aussi encouragés à la Sainte Communion, à l'Eucharistie, puisqu'elle a même permis que l'ange vienne donner la communion à ses enfants. Marie peut-elle vouloir autre chose que de nous donner son Fils, de nous donner Jésus dans nos cœurs? Et puis, pourquoi ces secrets? Bien, la très sainte Vierge, dans son amour pour nous, dans sa condescendance pour nous qui sommes de pauvres pécheurs, elle a voulu nous mettre en garde. Elle a voulu nous annoncer des événements futurs afin de nous préserver, de garder notre foi, de garder la grâce dans nos âmes. Voilà pourquoi elle est venue, voilà pourquoi elle a donné ses secrets. Et il faut le dire, nous ne pouvons pas le cacher, malheureusement, la Vierge y a pensé. Si la très sainte Vierge a demandé à Lucie de diffuser le troisième secret à partir de 1960, et que ce secret soit divisé par le pape, ce n'était pas sans raison. C'est parce qu'elle savait qu'après 1960, des événements très graves devaient traverser l'histoire de la Sainte Église. Et elle voulait nous mettre en garde. Et elle voulait mettre en garde les autorités de l'Église, afin d'éviter ces malheurs. Afin d'éviter que la foi ne se perde, et que les âmes ne se perdent. Alors nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Nous savons que après 1960, des événements graves vont traverser l'histoire de l'Église. Et particulièrement, eu égard aux responsables de l'Église. Et c'est probablement pour cela, malheureusement, que les responsables de la Sainte Église n'ont pas voulu diffuser le secret. Ils ont pensé que cette diffusion n'était pas opportune. Grand mystère, mes bien chers frères, grand mystère. Alors voyez-vous aussi, la très sainte Vierge Marie veut que nous ayons dans nos âmes des dispositions toutes célestes, dispositions d'amour du bon Dieu, dispositions de prière, dispositions de nous unir à notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, dispositions de nous sacrifier pour les pécheurs de ce monde. Eh bien, demandons aujourd'hui. Et je pense que c'est un des motifs importants de notre venue ici, à vous tous, mes bien chers frères, qui êtes venus de tous les coins du monde, des deux Amériques, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, de toute l'Europe. Voilà ici réunis auprès de la Vierge Marie de Fatima, ayant les dispositions dans vos cœurs de ces petits enfants qui ont reçu la très sainte Vierge Marie et qui l'ont vue. Demandons à la très sainte Vierge Marie de dénouer ce mystère, qu'elle vienne à notre secours. Grand mystère de Rome, grand mystère de la situation de la papauté aujourd'hui. On nous demande souvent, mais ne déchirez pas l'Église, ne divisez pas l'Église, ne faites pas schisme. Mais mes bien chers frères, dites-moi, où est l'unité de l'Église? Qu'est-ce qui fait l'unité de l'Église? Ouvrez tous les livres de théologie, ouvrez tous les livres des saints, ouvrez tous les livres des docteurs et des théologiens. Ce qui fait l'unité de l'Église, c'est l'unité de la foi. De la foi. On se sépare de l'Église dès lors qu'on n'a plus la foi catholique. Voilà personne investie de pouvoir dans l'Église depuis que notre Seigneur a fondé son Église, toute personne qui a quelque pouvoir dans l'Église, et tout particulièrement tous les clercs, et particulièrement les évêques, et spécialement le pape, sont au service de cette unité, sont au service de cette foi. Allez, enseignez l'Évangile, pas un autre Évangile, pas n'importe quel Évangile, allez enseigner l'Évangile. Soyez au service de ce message que je vous ai donné, mais il ne faut pas changer le message. Alors pour nous qui gardons précieusement toute la foi, pour rien au monde, nous voudrions enlever un iota, la moindre parcelle de notre foi, nous voulons la garder intacte, absolument intacte. Et c'est parce que nous voulons garder cette unité de la foi que ceux qui sont en train de la perdre nous persécutent. Voilà la véritable situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Situation mystérieuse, probablement annoncée par Notre-Dame de Fatima, vraisemblablement dans son troisième secret, que ceux qui voudraient rester catholiques seront persécutés par ceux qui, ayant l'autorité dans l'Église, s'écartent de la foi. S'écartant de la foi, ils voudraient nous entraîner avec eux. Et parce que nous leur désobéissons en ne voulant pas perdre la foi avec eux, ils nous persécutent. Mais notre Seigneur l'a dit, il a prédit qu'il y aurait des mauvais pasteurs et que nous ne devons pas suivre les mauvais pasteurs, nous devons suivre les bons pasteurs. Voilà le mystère que nous vivons aujourd'hui. Alors demandons à la Très Sainte Vierge de nous dénouer ce mystère. C'est un martyr pour vous, pour nous, pour tous ceux qui vivent dans cette époque. C'est un vrai martyr moral. Peut-être pire que le martyr du sang. De constater que ceux qui devraient prêcher la foi catholique, défendre la foi catholique pour l'unité de l'Église, abandonnent cette foi catholique et cherchent à être bien avec le monde, avec les principes modernes, avec les principes de cette société qui est dirigée plus par Satan que par le bon Dieu. Alors prenons la résolution ici auprès de la Très Sainte Vierge Marie et demandons-lui la grâce, mes bien chers frères, de garder la foi, de demeurer catholique jusqu'à la fin de nos jours, d'avoir cette grâce de la persévérance finale dans la foi catholique. Pourquoi tous les martyrs ont-ils versé leur sang? Pour garder la foi. Eh bien, s'il nous faut être martyrs, si nous ne devons pas être des martyrs du sang, mais des martyrs dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos esprits, eh bien, nous serons martyrs. Et nous serons les héritiers de ceux qui ont versé leur sang pour ne pas renier leur foi. Voilà ce que nous devons promettre à la Très Sainte Vierge Marie et essayer de faire comprendre cela à tous ceux qui nous entourent afin qu'ils ne perdent pas la foi, que perdant la foi, ils perdent leurs âmes. Voilà, mes bien chers frères, les résolutions que nous devons prendre aujourd'hui. Prier, nous sacrifier, faire le sacrifice de notre vie, offrir notre vie pour la rédemption du monde, pour le salut des âmes, pour le salut de nos âmes, le salut des âmes de nos familles, des membres de notre famille. Et demander, enfin, le renouveau de la Sainte Église catholique. Que l'Église retrouve sa splendeur, que l'Église retrouve son unité dans la foi, que l'Église retrouve ses milliers et milliers de vocations religieuses, comme autrefois, que de nouveau les noviciats se remplissent, que les séminaires se remplissent, pour garder la foi catholique, pour vivre la foi catholique, pour propager la foi catholique. C'est ce que nous nous forçons de faire, mes bien chers frères, avec ceux que vous voyez ici présents, ces jeunes prêtres, jeunes séminaristes. Dès lors qu'on veut garder la foi, dès lors qu'on veut garder le sacrifice de la messe et la véritable Eucharistie, dès lors qu'on est dévoué tout cœur et âme, et corps et âme à l'Église, eh bien il y a des vocations. Les vocations viennent parce que nous sommes dans la vérité. Demandons à la Très Sainte Vierge Marie de bénir nos séminaires, de bénir nos jeunes prêtres, afin qu'ils soient des apôtres, de bénir nos religieuses, de bénir nos sœurs de la fraternité, toutes les sœurs qui se dévouent dans la tradition des carmélites, les dominicaines, les bénédictines, que sais-je, toutes les religieuses qui veulent garder la foi catholique et qui veulent la répandre. Et que la Vierge Marie daigne nous bénir, afin que nous puissions continuer courageusement, malgré les épreuves, à servir au règne de son divin Fils. Adveniat regnum tuum. Que votre règne arrive, oui, ô Seigneur Jésus, que votre règne arrive sur les personnes, sur les familles et sur les sociétés, afin que ce règne se continue dans l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.